C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Alors, reprise des travaux de l'Assemblée nationale, on le sait, 29 novembre, la grande famille caquiste a été assermentée hier. Est-ce que tu as entendu, Luc, les propos du premier ministre?
La chicane sur la chicane?
Sur l'importance d'être solidaire.
Ah ouais.
On va l'écouter juste pour mettre la table un petit peu, Richard, quand même.
C'est une vraie famille, la CAQ. En privé, en caucus, on peut tout se dire. Mais quand on sort du caucus, on est un bloc uni, impossible à traverser.
Oui, monsieur.
C'est la même chose ici. Là. On peut se dire dans les corridors ce qu'on veut, mais à l'antenne, solidarité. Bon, alors, quelles doivent être les priorités du nouveau gouvernement, d'ailleurs, qui sera présenté demain? Alors, on commence avec Luc.
D'abord, première chose, il faut comprendre que le slogan, comme disait Jean Chrétien, c'était « continuons ». Non, surtout pas. Moi, je dirais... Une minute. Continue pas pareil. Continue, mais pas pareil. D'abord, il faut reconnaître que le gouvernement a été élu. Hein. Ça, c'est une chose. C'est un gouvernement qui a été élu avec ses contradictions, avec ses personnes. Tu sais, moi, le fait qu'on ait élu un lobbyiste des mines à Rouyn-Noranda, ça fait pas mon affaire. Mais ils l'ont élu. Fait que c'est de même. Donc, ça va être eux qui vont déterminer les priorités. Et je m'attends pas à ce que ça devienne un gouvernement environnemental du jour au lendemain. Là. Par contre, il va falloir qu'ils vivent avec la critique. Puis il va falloir qu'ils vivent avec les conséquences. Si tu as des décisions, tu veux faire du développement économique, c'est ça tes choix. Tu veux redonner à la classe moyenne, tu l'as dit que tu allais le faire. Tu veux donner de l'argent, mais pas des services. Tu as été élu pour ça. Vas-y, mon gars. Mais tu vas avoir des critiques. Et les voici. Aujourd'hui, je vais faire des critiques, mais pas des critiques qui vont... contre le choix du peuple, des critiques qui tentent d'orienter le gouvernement dans sa trajectoire, dans le processus pour lequel il a été élu. Première priorité qu'il peut faire, même si il avait nié l'enjeu, c'est le logement. Le logement, là, c'est la clé de la qualité de vie des jeunes familles. C'est la clé de la qualité de vie des familles québécoises depuis des décennies. C'est comme ça que ça marche au Québec. T'as accès à une maison moins chère, ce qui va te donner l'opportunité, la possibilité de payer plus d'impôts, plus de taxes. En bout de ligne, ça égalise avec l'Ontario parce que tu payes ta maison moins chère. Si tu trouves pas de maison, tu peux pas travailler. Donc, Gaspé, deux exemples, Gaspé et Saint-Sauveur, là. Pas de maison, pas de travail, pas d'emploi. Oublie ça, le projet d'enrichissement des Québécois sans logement. Or, ce matin, on le disait que le nombre de mises en chantier a diminué au Québec. À la place d'augmenter. Ça, c'est la première priorité.
OK. Garde ta deuxième priorité.
Non, mais avant de parler de priorité, un commentaire sur le ton.
Oui.
Hier, ce n'est pas pour rien que le premier ministre a rappelé ses députés à l'ordre et a exigé de la solidarité. D'ailleurs, il a envoyé un message aux journalistes en disant « N'essayez pas de cuisiner les députés de la CAQ, là, ils ne vous parleront pas. »
Encore drôle.
On verra, comme disait François Legault en 2018. Mais non, le ton est important parce que ce ne sera pas un mandat tranquille, tu as raison, Luc. Et moi, je souhaite que ce soit un gouvernement zen parce qu'ils auront besoin de zénitude. Ça va brasser. Tu parlais des priorités. La CAQ a déjà annoncé ses couleurs. Le Devoir hier faisait un rappel sur certaines de leurs priorités. Bouclier anti-inflation, les fameux chèques, mesdames et messieurs, ils vont arriver quelque part en novembre et décembre. Élargissement de l'aide médicale à mourir. Il y a trois projets de loi qui sont morts au feuilleton qui vont être réactivés selon ce qu'on lit. Élargissement de l'aide médicale à mourir, augmentation des redevances sur l'eau. Luc,
c'est bon,
ça serait une excellente
vraiment
nouvelle. Réforme du droit de la famille, il faut poursuivre. La promotion du français. Également, ils veulent adopter un projet de loi pour plafonner l'augmentation des services gouvernementaux. Ça, c'est probablement les tarifs d'hydro et les tarifs de toutes sortes. Alors, le logement, t'as raison d'insister là-dessus, Luc, c'est fondamental. Mais moi, ce que je dis, c'est qu'il faudra... En fait, il faut arrêter de gérer à la petite semaine. Et là, le gouvernement aura besoin de... Il devra faire preuve de profondeur. Santé, éducation, par exemple, pénurie de travailleurs, environnement, vieillissement de la population. Quand je dis profondeur, là, c'est... Il faut se projeter dans le temps et dire quelles décisions on prend maintenant pour assurer un avenir à des missions aussi fondamentales que l'État, que sont la santé et l'éducation.
Absolument d'accord avec toi pour les missions de base de l'État. Je veux revenir sur le logement. Excusez-moi. J'ai dit qu'en région, logement égale emploi. À Montréal, intégration des immigrants égale logement. Tu peux pas faire venir 50 000 immigrants. Et on a sur le territoire, on a à peu près 200 000 travailleurs temporaires, immigrants temporaires avec permis. Là. On y en rentre 30 000 par année, mais sur le territoire, il y en a 200 000. Si tu n'as pas du logement pour les familles, il va se passer la chose suivante, que Montréal va se détacher du reste du Québec. Et c'est largement commenté, là. Et si une famille peut pas s'installer à Montréal, c'est le cas en ce moment. Pendant qu'on se parle, une famille peut pas s'installer à Montréal dans un logement avec trois chambres à coucher. Ça n'existe pas pour en bas de 700 000 $.
Montréal va se détacher?
Ben, Montréal va devenir de plus en plus un lieu, pas seulement d'immigration récente, mais d'expat, c'est-à-dire des gens qui viennent pour un contrat à durée déterminée. Ils travaillent dans la technologie de l'information, finance, etc. Ils restent 3 ans, ils s'en vont. Ou dans les firmes de génie.
Ouais, mais ça, Luc, c'est pas une responsabilité qui appartient seulement au gouvernement. Absolument. Fédéral et provincial. La ville de Montréal, pour éviter ce que tu anticipes, devra elle aussi assumer du leadership sur cette question-là. Par exemple, combien de loyers sont vacants dans les HLM à Montréal? C'est un scandale. Pourquoi ne pas les rénover? Ça, c'est un. Deuxièmement, l'émission des permis à la Ville de Montréal. Les promoteurs qui cognent à la Ville puis qui attendent des mois, voire des années pour leur permis. Hello, gang, wake up! Est-ce que c'est possible
vrai,
de
Nathalie,
bouger?
Ça, c'est vrai. Donc, il faut mettre plus de personnes à l'émission des permis. C'est un poste pour lequel c'est difficile de faire de la rétention du personnel parce que ce sont des architectes qui ont une bonne connaissance des dossiers, une bonne expertise, sont vite absorbés par l'industrie qui en a beaucoup besoin. Ils viennent les chercher du jour au lendemain. C'est très difficile d'avoir du monde au permis à Montréal. Et quant aux promoteurs qui disent « laissez-nous construire n'importe quoi », il y en a ce matin dans les journaux. Puis ça, c'est ils font ça partout. Là. On a vu qu'ils l'ont fait à Sorel-Tracy, on voit qu'ils l'ont fait sur la Rive-Sud. « Laissez-nous construire, on a besoin de logements. » Attends, plus les logements que vous voulez construire, c'est pas les logements dont les familles ont besoin. Toronto, ils ont eu des années où ils ont laissé beaucoup se développer le logement, avec pour résultat qu'il n'y a pas moins de crise de logement qu'ici. Je veux aussi parler de justice. Un élément sur la justice, bien important.
Ouais.
Les délais de justice sont des dénis de justice. Ça, là, un délai de justice de 4 mois, ce n'est pas un déni de justice. Un délai de justice de 2 ans pour avoir une cause qui est entendue en un drame familial, 2 ans, c'est un déni de justice. À la Chambre de la jeunesse, un délai de 6 mois pour un enfant qui vit dans une famille toxique, c'est un déni de justice. Là, il va falloir... La juge du Québec a décidé, juge en chef du Québec a décidé que les juges allaient juger juste 1 journée sur 2. Il manque 42 juges, il en manque 8 à la Cour de la jeunesse, il en manque en droit administratif, là. Un promoteur qui décide de crosser une ville, qui décide de raser les armes, puis qui dit « je m'en fous », qui vient de me chercher, voir. Qui font juste essayer de venir me chercher. Ah ouais, la ville, elle sera même pas capable d'avoir une injonction avant des mois.
Mais là, on a un exemple de profondeur à laquelle je référais tantôt. La justice, une des missions fondamentales de l'État, un des socles de notre démocratie. Le ministre actuel de la Justice, enfin passé, Simon-Jolin Barrette, peut-être le sera-t-il à nouveau jeudi, mais c'est obstiné. Non, il n'est pas question qu'on nomme 42, 44 juges. Il s'est objecté à la vision de la juge en chef de la Cour du Québec en disant « c'est un autre scandale de savoir que les juges s'ajunent 1 jour sur 2 ». Mais pourtant, c'est essentiel qu'on s'attaque à ce genre de mission de l'État. Le logement, c'est la même chose. Le gouvernement a passé combien d'années sur 4 années de mandat à nier la crise du logement? Pourtant, mon Dieu, on en parle à tous les jours. C'est le fondamental. Ça te prend quoi dans la vie? Un toit sur la tête, de quoi manger, de quoi t'habiller. On est
ça,
dans
c'est
le basic.
Ça, c'est, comment t'expliques ça? Là? Tu sais, c'est un gouvernement avec plein de monde intelligent. Là. Moi, ça se fait qu'ils sont pas capables d'aller en profondeur.
C'est une excellente question. Mais moi, je mets ça sur le pragmatisme du premier ministre. Monsieur Legault, et c'est un des reproches que je lui fais, parce que c'est un homme très talentueux, c'est un excellent communicateur, tu sais, ce qu'on décrit souvent comme un bon père de famille, très, très pragmatique. Là. Lui, il est tout, tu sais, au day-to-day, là. Les chèques, là, tu sais, les chèques, c'est important,
ouais,
les chèques.
Chèque,
ouais. Sauf que la capacité de se projeter dans l'avenir, faire preuve de vision, ça, je trouve que ça a manqué au gouvernement qui est en place.
On s'arrête pour la pause. Au retour, abolir les examens traditionnels et les notes pour les apprentissages, est-ce que c'est une bonne idée en éducation? On va en discuter.
La commission Normando-Ferrandaise.
Bon, c'est un débat que j'ai déjà vu dans le passé, quand il y a eu cette discussion sur les notes, puis beaucoup de parents. Et je me souviens de Lucien Bouchard, qui était un tenant de l'école traditionnelle puis du bulletin, puis qui dit, moi, comme parent, je veux savoir si tu es 60, 70 ou 80. Et là, il y a des écoles où on a aboli les examens traditionnels, puis des fameux bulletins, pour passer dans un mode plutôt d'apprentissage? Nathalie?
Bien, c'est une question intéressante que j'ouvre, que je trouve même rafraîchissante. Une des écoles ici, en question, c'est le pensionnat du Saint-Nom de Marie. C'est un collège privé situé à Montréal. 1300 élèves filles, collège privé francophone. Si tu parlais des bulletins chiffrés, Paul, on a réintroduit le bulletin chiffré en 2007 à la demande des parents. Parce que le ABCDE là, sur le bulletin, ça disait pas grand-chose. Et les parents avaient besoin d'être rassurés sur mon enfant. Là, est-ce qu'il réussit par rapport aux autres. Alors ça, on l'a réintroduit en 2007. Le bulletin chiffré, c'est une exigence d'ailleurs contenue dans la loi et les examens du ministère à la fin de l'année. D'ailleurs, le collège en question, les écoles qui proposent un nouveau modèle d'apprentissage et d'évaluation sont soumises à cette loi. Donc, on dit moins de bourrage de crâne, puis on veut privilégier des façons d'apprendre qui sont plus dynamiques, qui tiennent compte des besoins, des particularités des enfants. Moi, je dis, j'applaudis à ça, je trouve ça extraordinaire. Là, on est face à une école privée qui a des moyens. Ça a pris 2 ans, d'ailleurs, dans cette école-ci à implanter ce programme qu'on désigne comme le programme FLEX. FLEX pour flexibilité, probablement. Alors, je dis, c'est extraordinaire. Sauf que dans l'état actuel de l'école publique, je doute que ce genre de méthode puisse être implantée. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de moyens. Ce matin, il y a plusieurs articles dans les journaux qui dénoncent l'école à 3 vitesses une fois de plus, la disparité entre les écoles privées et les écoles publiques. Mais ce que je trouve intéressant avec ce genre d'approche, c'est que c'est peut-être une réponse à l'enjeu du décrochage. C'est le décrochage scolaire. On parle beaucoup des garçons, mais aussi des filles qui décrochent. Quand tu sais que 80 % des filles vont recevoir un diplôme après 5 ans contre 64 % seulement pour les garçons, évidemment, il y a quelque chose là qui nous interpelle comme société, mais il semblerait qu'on fait du surplace avec le décrochage scolaire, incapable de trouver des solutions pour permettre aux jeunes, garçons en particulier, de se raccrocher à l'école. Peut-être que cette façon d'enseigner pourrait être une réponse.
Mais moi, je suis d'accord avec toi, c'est une réponse pour une partie des gens. C'est parce que hier, justement, j'avais la directrice des services pédagogiques du pensionnat Saint-Nom-de-Marie à mon émission, Mme Gourou, puis elle disait... Tu sais, c'est la triangulation. Il faut que le parent soit impliqué, il faut que l'enfant soit impliqué, il faut que le professeur soit impliqué et le professeur travaille en équipe avec tous les autres professeurs. Donc ça, là, tous ces ingrédients dans la recette, là, c'est justement ça qui manque dans plusieurs écoles. Et le pensionnat Saint-Nom-de-Marie, là, c'est pas n'importe quel collège, là. Tu sais, ça, c'est le collège où, d'abord, tu sais, c'est l'institution qui te dit je suis l'institution, tu es petit. Là, quand tu rentres devant ça, là, quand tu sais, c'est comme le dôme en haut. Là,
vous êtes bon privilégié d'être ici.
Oui, c'est quand... Puis ils ont rien changé, c'est préservé à l'intérieur. Là, tu marches sur les planchers cirés que les sœurs ont cirés pendant des années, puis il y a quelque chose en veillant. Et les parents qui envoient leurs enfants là, tu as tout le même set de yeux que j'ai envie
de. C'est des filles, hein, seulement des filles.
Oui,
oui,
mais voilà. Les parents sont intenses. Là. Quand t'es de l'autre bord du set de yeux des parents, là, je peux te dire que tu te sens petit dans tes souliers. Là, parce qu'eux autres te regardent puis ça a affaire à marcher. Fait que si ça marche là-bas, c'est que ça marche. Puis il faut dire qu'ils ont pris l'exemple dans plein d'étalés, dans plein de villes, dans collèges, de pays où ça marchait, et ça marchait très bien.
Hey, 2 ans, Luc, d'études de pédagogie, 2 ans d'études pour... sur le plan pédagogique pour élaborer ce modèle, ce nouveau modèle d'affaires sur le plan scolaire.
C'est ça. Mais bon, ça peut pas marcher partout. Non. Au Québec, il y a un réseau d'écoles alternatives, une trentaine d'écoles de primaire, 2 écoles secondaires et 1 mixte secondaire-primaire qui fonctionnent aussi très bien. Et ce sont pas des écoles de riches, ce sont des écoles où les parents sont impliqués. Et donc, ça peut marcher s'il y a un engagement. Fait que ça peut marcher. Mais maintenant, ça marchera pas pour tout le monde. Et ce qu'on doit faire au Québec, là, on le sait maintenant. Il y a un bel article qui est sorti. 9 enseignants, hommes, qui ont écrit une lettre hier, ou avant-hier. Moi, je l'ai lu hier, en tout cas. J'ai trouvé ça drôle que ce soit des gars, alors que c'est un métier qui a prédominance féminine, et qui ont des solutions. Il y a aussi un bel article dans la presse. J'ai oublié le nom de la... Quelqu'un pourrait-tu me dire le nom de l'article de la presse qui est sorti, des solutions pour le système d'éducation, le nom de la journaliste qui a écrit ça, parce que il faut vraiment y lever notre chapeau. Là. Alors, rassembler de tout ce qui va pas, on le sait, donc, retenir les professeurs, avoir de la tolérance pour les personnes qui sont en fin de carrière, qui voudraient réduire un peu leurs tâches. Les centres de services scolaires préfèrent les perdre plutôt que de modifier leurs règles et accepter du temps partiel ou du temps réduit. Évidemment, continuer la rénovation des écoles, mettre fin au système à 3 vitesses. On connaît les solutions, OK? Et les solutions doivent toutes cibler les personnes défavorisés, soit en termes les hommes qui ont des cheminements particuliers ou des familles qui les supportent pas, c'est là que le bas blesse.
Un autre beau défi pour le futur ministre de l'Éducation, et moi je mise sur Sonia Lebel comme ministre de l'Éducation, je ne sais pas ce que vous en pensez, un trio à l'éducation, Martine Biron à l'enseignement supérieur, et puis Sonia Lebel à l'éducation pour préscolaire, primaire et secondaire. Mais Luc, tout ce que tu as soulevé, c'est absolument juste. Il y a d'immenses défis à relever pour le secteur d'éducation, comme il y en a dans le secteur de la santé. On n'a pas parlé du taux de diplomation. Par rapport au Québec, là, ben, si tu compares les pommes avec des pommes, là, le Québec pourrait faire mieux. Par rapport à l'Ontario, par exemple, par rapport à d'autres pays de l'OCDE. On ne sait pas si pire, mais on pourrait faire mieux. Donc, tu sais, le taux de diplomation, les jeunes qui décrochent, les jeunes en difficulté pour lesquels on doit avoir une attention plus particulière. Mais quand tu regardes ça, le big picture, excusez l'expression anglaise, tu dis, est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va y arriver? Parce qu'il manque 1400 enseignants dans le réseau de la santé, dans le réseau, pardon, de l'éducation. On parle pas souvent du personnel de soutien scolaire, mais ça, c'est une autre réalité. Alors moi, je me dis, tout ça, c'est bien beau, c'est inspirant, mais il faut donner à l'école publique des moyens, les moyens de ses ambitions. Ce n'est pas le cas actuellement.
Oui, on va y arriver.
Mais il faut donner un coup de barre. Il faut donner un coup de barre.
Ah, mais un coup de barre, des coups de barre, puis d'un certain coup bien placé aussi. quand tu regardes, là, ce qu'on a fait en éducation, il y avait une théorie prédominante dans les années 80-90 qui était notamment portée par Camille Bouchard qui dit le Québec fout de ses enfants, donc il fallait travailler sur la petite enfance. Et on l'a fait.
Mais on a créé les CPE, réseaux de service de garde.
Maintenant, il y a les maternelles 4 ans. On essaie de saisir les enfants le plus rapidement possible lorsqu'ils sont, on les juge, on les envoie dans des cheminements particuliers. On a été capable. Le problème, c'est que ça, on l'a bien fait. Et on a vu combien de ressources ça a exigé... On l'a vu combien de ressources ça a exigé, mais on n'a pas fait la même chose au secondaire. Quand un enfant faillit, quand un enfant décroche, perte de motivation, problèmes familiaux, ou alors lui suit pas trop, il regarde plus, il a plus les yeux vers la cour de récréation, puis le S à fin des mots au pluriel, ça l'intéresse moins. Sais-tu ce qui arrive? Là, le professeur, l'enseignante, elle a juste une envie. Là. Elle a juste une envie, c'est de le mettre en cheminement particulier. Pourquoi? Parce qu'elle est débordée. Puis en cheminement particulier, il va se passer quoi? Il va être dans un groupe hétérogène, avec du monde d'âge et de compréhension différente. Un pédagogue qui vient une fois, un orthopédagogue qui vient une fois par semaine. Un pédagogue qui connaît pas vraiment ses capacités. Cet enfant-là, tu viens de le perdre. Tu viens de le perdre! Mais c'est ça, c'est là que le bas blesse.
Ça fait 10 ans, 15 ans qu'on parle de ça. À un moment donné, c'est comme...
Ça prend pas la tête à Papineau, Chris, faut le faire.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, le mot d'église, je suis d'accord avec toi.
Ouais. Moi, le mot d'église.
Le mot d'église, parfois, donne un certain relief.
Oui, tout à fait, absolument.
Comme on dit bien, placé, bien senti.
Relief et profondeur.
Et voilà, exactement.
C'est 23.